Une simple combinaison entre la vanilline, produit de synthèse, et un absolu de labdanum, produit naturel, devient une convention olfactive à l'origine d'un nombre fabuleux de parfums. Dans cette industrie d'art où la France excelle, deux hommes influencent plus particulièrement la parfumerie. Le premier est François Coty. Pour cet ambitieux parfumeur, le parfum est avant tout un objet qui se regarde. La boutique de René Lalique, maître verrier bijoutier se trouvant, comme celle du parfumeur, place Vendôme, ils se rencontrèrent. Leur première collaboration se fait autour du parfum Les Fleurs, 1907, offrant le premier flacon créé spécialement pour un parfum. Le second, Paul Poiret, est un célèbre couturier au tempérament aristocratique. Esthète, audacieux, fantaisiste, exigeant dans son travail et aimant les fêtes, il incarne le dandy de la belle époque avec sa joie de vivre, son insouciance. Il a cependant compris l'intérêt de signer tout ce qui touche à ses marques. Il sera le premier couturier à établir des contrats de licence sur ses produits. Sous la marque Les Parfums de Rosine, il est le premier couturier à engager un parfumeur, chimiste de formation, Maurice Chalère. Les liens entre la couture, la marque, le parfum se nouent à cette occasion et ne se déferont plus. Au début des années 1920, l'arrivée des couturiers comme les sœurs Callot, Gabrielle Chanel, Jeanne Lanvin, Jeanne Paquin, Jean Patou, Lucien Lelon et Madeleine Vionnet mettent la corporation des parfumeurs en ébullition. En 1925, à l'Exposition internationale des arts décoratifs et de l'industrie, parfumeurs et couturiers parfumeurs rivalisent d'imagination. Les parfumeurs qui dominent sont Guerlain, qui a créé pour cette occasion Chalimard, Lubin qui présente l'éternel eau de Lubin, Pivert qui offre la plus grande diversité de produits, les parfums de Rosine, du grand couturier Paul Poiret et Coty. En 1931, la crise économique mondiale touche la France. L'arrivée du Front populaire en 1936 fait renaître des rêves. C'est l'apparition des premiers produits de grande consommation. Shampoing, huile solaire, lessives en poudre, dont les odeurs vont marquer durablement nos mémoires. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les parfums restent l'apanage de la bourgeoisie. Ceux du moment sont Chypre, de Coty, Quelques fleurs, d'Oubigan, Mitsuko, L'heure bleue, Chalimard et Vol de nuit, de Guerlain, Tabac blond, de Caron, Numéro 5, de Chanel, Arpège de Lanvin et Tabu de Dana. Les nouvelles créations sont Femmes, que Marcel Rochat a lancé par souscription à la Libération, Parfum créé par Edmond Roudniska, compositeur de parfums indépendants, Bandit de Piguet, composé par Germaine Cellier, et Miss Dior par Jean Carl, tous deux compositeurs de parfums de la société Roure-Bertrand, fabricants de matières premières, qui créent des parfums pour tous les nouveaux couturiers. Paris redevient le phare de la mode. La parfumerie suit la haute couture. Dans les années 1950, la mémoire olfactive se promène le long des parterres de Muguet avec Vent vert de Pierre Balmain, Muguet du bonheur de Caron, Premier Muguet de Bourgeois et l'enchanteur Diorissimo de Dior. Pour les hommes, des senteurs strictes, élégantes, de racines et de bois avec un vétiver chez Carven, Givenchy et Guerlain. Christian Dior lance Eau sauvage en 1966. Le succès est immédiat et international. Par sa simplicité, sa rigueur, cette eau de toilette renouvelle la parfumerie, suscite d'innombrables variations. Autour du mot « eau » naît une profusion d'eaux féminines, masculines et androgynes. 40 ans après sa création, le succès d'eau sauvage ne se dément pas. Les années 1970 voient apparaître de nouveaux acteurs du parfum, les joailliers. Van Cleef et Arpels lancent First en 1976 et Cartier propose Must en 1981.